Chapitre 28. Buddy Lee s'engagea sur Lafayette Lane et s'arrêta devant une guérite plantée au milieu de la chaussée qui régulait l'entrée d'un vaste lotissement. À vrai dire, le terme « lotissement » était peut-être mal choisi, étant donné que Buddy Lee apercevait en tout et pour tout 6 maisons, chacune entourée d'un jardin qui devait faire la taille d'un demi-terrain de football. « Les fameuses arches gothiques », marmonna Ike dans sa barbe. « Hein ?» « La troisième baraque sur la gauche, la plus énorme. Elle a des arches gothiques. »«
C'est quoi, des arches gothiques ?»«
Laisse tomber. Voilà le gardien. » Un noir obèse s'approcha du pick-up, un porte-bloc dans une main et un talkie-walkie dans l'autre. Pour Ike, il n'y avait rien de pire qu'un homme avec un porte-bloc. Lui-même avait été à la merci d'hommes avec des porte-blocs. Il pouvait vous interdire l'accès à un quartier résidentiel sécurisé ou vous mettre dans un bus en partance pour la prison. Donnez un porte-bloc à un homme et vous découvrirez sa véritable nature. Le gardien toqua à la vitre de Buddy Lee, lequel s'empressa de l'abaisser.
« Bonjour, monsieur. À qui rendez-vous visite ?»«
Bonjour. On vient voir monsieur Matthews, »
répondit Buddy Lee en lui décochant son plus beau sourire.
« Il a fait don de meubles à l'armée du salut et on est là pour les récupérer. »«
Et vous êtes ?»
Buddy Lee Jenkins.
Je suis désolé, monsieur, mais votre nom ne figure pas sur la liste.
S'excusa le gardien après avoir vérifié son porte-bloc.
Appelez-le. Dites-lui qu'on veut lui parler de Tangerine et qu'on bougera pas d'ici.
Intervint Ike. Le gardien ouvrit la bouche pour répondre, mais se ravisa. Après quelques échanges dans son talkie-walkie entrecoupé de bruits parasites, il indiqua la troisième maison sur la gauche et annonça
« Monsieur Matthews vous attend. »
Ike vit arriver dans le rétroviseur une femme au volant d'une BMW argentée. Avec son carré plongeant sévère, elle avait l'air de l'archétype de l'emmerdeuse. Le genre de femme a exigé de parler aux responsables 3 minutes après être entrée dans un magasin. Elle les dépassa sans ralentir, comme si elle était pressée de transformer les dalmatiens qu'elle avait dans son coffre en moto de fourrure.
« Merci, monsieur !»
lança Buddy Lee au gardien. Celui-ci leur adressa un signe de la main lorsqu'ils franchirent la barrière.
« J'arrive pas à croire que ça ait marché !» ajouta Buddy Lee. « J'imagine qu'on a piqué la curiosité de Mr. Get Down en mentionnant Tangerine. »« Il a pas juste mordu à l'hameçon, il a carrément bouffé toute la ligne !»
s'esclaffa Buddy Lee, jusqu'à ce qu'une quinte de toux le prenne et qu'il soit obligé de se pencher au-dessus du volant, la main devant la bouche.
« Ça va ?»
Buddy Lee acquiesça, en continuant à tout sauter, avant de tâtonner dans le porte-gobelet jusqu'à ce qu'il trouve de quoi s'essuyer. Ike remarqua alors les petites taches roses sur la serviette en papier que Buddy Lee venait de froisser. Et il comprit que celui-ci n'allait pas si bien que ça.
« Il serait temps que j'arrête de fumer !»
dit Buddy Lee.
« Je t'ai jamais vu avec une clope au bec.
Putain, t'as raison. Faudrait peut-être que je m'y mette !»
Alors qu'il remontait l'allée sinueuse bordée d'érables rouges qui desservait ce quartier résidentiel huppé, Ike nota que toutes les propriétés étaient délimitées par un muret en briques ou en pierre, avec un portail en fer forgé côté rue. Quant aux pelouses, elles étaient immaculées, parfaitement tondues. Buddy Lee eut à peine le temps de s'arrêter devant le portail noir de la troisième maison que celui-ci s'ouvrit comme les ailes d'un papillon, avec un léger vrombissement. Lorsqu'il vit le portail se refermer derrière eux et qu'il entendit le verrou se remettre en place, Ike sentit une goutte de sueur glacée couler le long de sa colonne vertébrale. Cela lui rappelait de mauvais souvenirs. Buddy Lee suivit la voie privée en béton lavé qui se terminait par une boucle devant l'escalier monumental desservant l'entrée de l'immense demeure, et il se gara à côté d'un énorme SUV Mercedes rabaissé. 4 gorilles en costume sombre descendirent les marches, encadrant un petit homme à la peau noire, coiffé de tresses particulièrement élaborées et portant un survêtement vert pomme. L'homme arborait également autour du cou une chaîne, avec en guise de pendentif un énorme peigne afro en or qui devait peser plus lourd que lui. Buddy Lee et Ike se placèrent côte à côte pour faire face à ce quintet qui semblait tout droit sorti d'un mauvais clip de rap.
« Faut y aller !»
ordonna le noir au survêtement vert. Ike et Buddy Lee levèrent les bras. La fouille était une concession acceptable si elle leur permettait de se rapprocher de Tangerine. Un des gardes du corps trouva le couteau pliant de Buddy Lee.
C'est pour éplucher les pommes,
expliqua celui-ci avec un sourire.
Tu parles d'une antiquité,
commenta le gorille avant d'empocher le canif.
Une antiquité qui appartenait à mon grand-père. Alors t'es gentil, mais tu me le rends.
Tout à l'heure, quand vous partirez.
Un silence pesant s'ensuivit. Kaïk décida de rompre en entrant directement dans le vif du sujet.
Est-ce que vous connaissez Tangerine?
On est à sa recherche.
Apparemment, elle sait peut-être qui a assassiné nos fils.
L'homme au peigne afro, Tariq, de toute évidence, ne sembla pas entendre la question. Il sortit un petit joint de sa poche et l'avait à peine calé entre ses lèvres que le garde du corps qui se trouvait à sa droite le lui alluma avec un briquet en or. Tariq tira une longue bouffée, retint sa respiration quelques instants, puis laissa la fumée s'échapper par ses narines.
« On lui veut aucun mal !» ajouta Bedili. « On cherche juste à comprendre ce qui s'est passé !»
Toujours aucune réaction de la part de Tariq.
« Écoutez, il y a quelqu'un qui a mis 2 balles dans la tête de mon gosse. J'ai besoin de savoir qui c'est. Et je crois... Enfin, on croit que Tangerine peut nous aider. »
Rien.
Vous êtes sourd ou quoi ?
S'exclama Bedili, incapable de dissimuler sa frustration plus longtemps. Tariq tira une deuxième bouffée sur son joint, puis il l'attrapa entre le pouce et l'index et le pointa tour à tour sur Bedili et Ike.
Voilà ce qui va se passer, les deux comiques, dit-il. Vous allez arrêter vos recherches tout de suite. Vous allez lâcher l'affaire, vous allez rentrer au bercail et foutre la paix à Tan. C'est une proposition unique que je vous fais. Et elle est non négociable. Soit vous l'acceptez, soit je demande à mes gars de vous plier en deux, de vous glisser dans une enveloppe et de vous renvoyer chez vous par la poste. C'est compris ?
Ike croisa le regard de Buddy Lee. Après quelques secondes, il reporta son attention sur Tariq.
« Je vous ai dit qu'on lui voulait aucun mal, » répéta-t-il calmement. « On cherche simplement à lui parler. »
Autour d'eux, les 4 gardes du corps avaient pris position à 11h, 1h, 5h et 7h. Et l'atmosphère était de plus en plus irrespirable. Tariq, lui, se tenait toujours au pied de l'escalier en pierre.
« Tu m'écoutes pas, hein ?»
lâcha-t-il en pointant son joint vers Ike comme le canon d'un pistolet.
« Eh merde !»
murmura Bedili. Les gardes du corps s'avancèrent. 2 pour Bedili, 2 pour Ike. Ceux qui avaient jeté leur dévolu sur Ike fondirent sur lui à pas rapides et précis, et se mirent aussitôt à le rouer de coups. Ike para les premières attaques, mais un coup de poing plus puissant que les autres l'atteignit au foie et ses jambes manquèrent se dérober. De la main gauche, il parvint toutefois à attraper le bras de l'homme qui le lui avait asséné, un noir à la peau très claire, et il lui écrasa la paume d'Adam avec le pouce. Le garde du corps tituba en arrière en se tenant la gorge, tandis que son collègue, un colosse à la peau plus sombre avec une coupe afro, abattait un poing de la taille d'un jambon sur la tempe d'Ike. Celui-ci eut tout juste le temps de rentrer le menton, mais la puissance du choc le fit malgré tout vaciller. Alors qu'il cherchait à retrouver son équilibre, son adversaire déclencha un coup de pied retourné défiant les lois de la physique, surtout pour un type de sa carrure. Lorsque le talon du garde du corps s'écrasa contre son torse, Ike eut l'impression d'avoir reçu un coup de taser. Il tomba en arrière contre le flanc du pick-up. Sur sa gauche, le premier garde du corps, qui avait eu le temps de recouvrer ses esprits, s'avançait vers lui d'un pas déterminé. Ike ne comptait plus le nombre de bagarres au milieu desquelles il s'était retrouvé, que ce soit en prison ou dans la rue, et il laissa son instinct prendre le relais. D'une main, il actionna la poignée de la portière dans son dos et ouvrit celle-ci à la volée au moment où le malabar à la peau claire allait lui sauter dessus. Un bruit sec lorsque l'angle métallique entra en contact avec son tibia, et l'homme posa un genou à terre comme pour demander Ike en mariage. L'homme à la coupe afro s'approcha et décocha à Ike un double crochet au menton. Celui-ci poussa un grognement et, ignorant les étoiles qui tournaient autour de lui, rentra la tête dans les épaules et se jeta sur son agresseur. Une prise de judo peu académique, et les 2 hommes se retrouvèrent au sol en une mêlée informe. Ike ne remarqua pas que dans son dos, le collègue au tibia meurtri s'était relevé et avait dégainé une matraque télescopique. Ike avait le dessus sur son adversaire. Un crochet du droit, un coup de coude du gauche. Le nez de l'homme à la coupe afro s'aplatit comme une méduse échouée sur la plage. Du sang s'échappait de sa bouche et de ce qui restait de ses narines. Ike en profita pour lui asséner deux directs successifs. Mais il n'eut pas le plaisir de voir l'œil du garde du corps se fermer, qu'une douleur fulgurante lui transperça la nuque et transforma son champ de vision en un éclair blanc. Alors qu'il se retenait de vomir, un second coup de matraque s'abattit sur l'arrière de son crâne et il s'effondra sur le torse du garde du corps assommé avant de glisser sur le côté. Le géant à la peau claire s'avança vers lui, écrasant le genou de son collègue dans sa précipitation. Ike était étendu sur le dos à présent. Il sentait la chaleur du béton de l'allée à travers son t-shirt. Et il avait l'impression d'avoir les deuxième et troisième vertèbres cervicales prises dans une tenaille. L'autre n'était plus qu'à un mètre de lui, brandissant sa matraque noire. Malgré la douleur qui le paralysait, Ike se fit la réflexion qu'elle ressemblait beaucoup à celle qui équipait les matons à Coldwater. Le garde du corps à la peau claire se pencha au-dessus de lui. Au lieu d'essayer de se protéger en repliant les jambes, Ike rassembla ses dernières forces pour un coup de pied latéral dans le genou de son agresseur. Il ne sentit pas le craquement qu'il espérait, mais il eut tout de même la satisfaction de voir l'autre s'écrouler contre le pick-up avec un beuglement et lâcher sa matraque en cherchant à se rattraper à la portière pour ne pas tomber. Ike se releva. D'un coup de talon dans le foie, il s'assura que l'homme à la coupe afro était toujours hors d'état de nuire, puis il s'avança vers son second adversaire et lui asséna un coup de boule dévastateur. Le géant glissa au ralenti contre l'aile du pick-up, laissant dans son sillage une traînée rouge sur le métal oxydé. Ike avait le front en feu, mais il fallait encore qu'il aille prêter main forte à Buddy Lee, qui était visiblement en train de dérouiller. Il allait s'élancer quand il vit le pistolet. Buddy Lee passait un sale quart d'heure. Dès l'instant où il avait vu que les deux Golgothes qui se précipitaient sur lui avaient une foulée de coureurs de 100 mètres, il avait compris qu'il allait prendre une raclée. Quand des types aussi costauds étaient capables de se déplacer aussi vite, ça ne pouvait vouloir dire qu'une chose, ils étaient surentraînés. Il avait beau savoir qu'il partait perdant, Buddy Lee décida de donner tout ce qu'il avait. Ça avait toujours été sa façon de faire, et il ne comptait pas en changer. Le premier Golgothe était doté d'une moustache noire si épaisse qu'on aurait dit qu'un chat avait élu domicile sur sa lèvre. Quant au second, il avait un strabisme qui devait lui permettre de vérifier les priorités à droite sans tourner la tête. Buddy Lee se jeta sur eux comme un moulin sur pattes, frappant œil perdu avec les poings et moustache noire avec les pieds. Quelques coups chanceux parvinrent à atteindre leur cible, mais Buddy Lee se rendait bien compte qu'il avait à peu près autant de chances de sortir victorieux de cet affrontement que d'arrêter un tank en lui lançant des mottes de terre. Un coup de genou dans le ventre asséné par œil perdu le plia en deux, avant que moustache noire l'attrape par les bras pour l'immobiliser. Œil perdu ne se fit pas prier pour se servir de lui comme d'un punching ball, et Buddy Lee devina qu'il allait pisser rouge pendant une semaine. Œil perdu lui souleva le menton et le força à le regarder dans les yeux. « Prêt pour la leçon, papy ?»« T'inquiète, j'apprends vite, petit con, » songea Buddy Lee. Et comme un gardien de but dégageant le ballon, il shoota de toutes ses forces dans l'entrejambe de son adversaire. Les cuisses d'œil perdu se refermèrent d'un coup et il tomba à genoux en se tenant les testicules à deux mains. Surpris, son collègue relâcha légèrement son étreinte et Buddy Lee en profita pour libérer ses bras et balancer la tête en arrière. Prise en sandwich entre un crâne et une rangée de dents, la lèvre de moustache noire explosa. Buddy Lee fit volte-face et décocha un crochet du gauche qui atteignit le Golgothe à l'oreille. Celui-ci s'écroula sur le capot du pick-up. C'est alors que Buddy Lee vit le pistolet. Moustache noire, qui aurait d'ailleurs désormais mérité de s'appeler moustache rouge, portait un holster d'épaule avec un énorme semi-automatique à l'intérieur. Buddy Lee avait toujours été habile de ses mains. Son père l'avait formé à voler des portefeuilles et des montres avant même de lui apprendre à faire du vélo. Les gardes du corps étaient probablement tous armés, mais ils avaient sous-estimé leurs adversaires, ne voyant en eux que deux vieillards qui avaient besoin d'une leçon de conduite et qui ne risquaient en aucun cas de leur donner du fil à retordre. « Grave erreur !» songea Buddy Lee, en glissant les doigts à l'intérieur de la veste de moustache noire pour le soulager de son arme. Puis, il s'écarta de façon à avoir à la fois œil perdu, moustache noire et Tariq dans son champ de vision.
« Reculez tous !»
s'écria-t-il, en marchant en crabe jusqu'à la portière conducteur de son pick-up, pendant qu'Ike s'avançait vers le côté passager.
« Pose ce flingue, enfoiré !»
ordonna le garde du corps à la coupe afro, qui s'était relevé entre-temps et braquait à présent son pistolet sur Buddy Lee.
« Tout de suite, Barry White. Et après, je te masse les pieds et je te taille une petite pipe !»
répliqua Buddy Lee en rassemblant toute sa volonté pour ne pas tousser.
« On voulait seulement discuter !» intervint Ike.
Les quatre gardes du corps se regroupèrent autour de leur patron. Derrière la muraille que formaient leurs épaules robustes, celui-ci tira sur son joint avec un grand sourire.
« Lâchez l'affaire, les gars. Cette vie est pas faite pour vous, et je vous laisserai pas approcher Tangerine. Alors rendez-nous ce flingue avant que ça se termine vraiment mal.
Et si t'arrêtais de te cacher derrière tes gorilles, qu'on voit qui est fait pour cette vie et qui ferait mieux de retourner dans les jupons de sa mère ?»
railla Buddy Lee, et le sourire disparut du visage de Tariq.
« Vous avez vu où j'habite ? Combien de temps, à votre avis, avant que les flics appelés par mes gentils voisins blancs débarquent ? Pas plus de 2 minutes, je dirais. Ils sont rapides pour voler au secours des privilégiés comme nous. Foutez le camp ! Le portail est ouvert.
« Quand tu croiseras Tangerine, préviens-la qu'on veut lui parler, » dit Ike. « Elle nous doit bien ça. Nos fils se sont fait tuer parce qu'ils ont essayé de l'aider.
Hey, »« Hé, toi !»
ajouta Buddy Lee à l'intention d'œil perdu.
« Lance mon couteau à mon pote. »«
Lâche le flingue et je te le rends, » répliqua l'autre.
Buddy Lee braqua le canon du semi-automatique en direction du front de son interlocuteur.
« Je sais que ton pote a son pétard pointé sur moi, mais je te garantis que si tu rends pas ce couteau tout de suite, on sera deux à visiter la morgue. »
Il y avait dans sa voix un calme qu'Ike n'y avait encore jamais entendu, et il comprit que Buddy Lee était prêt à mourir pour ce couteau. Le garde du corps dut le comprendre également, car il sortit le canif de sa poche et le jeta à Ike, qui s'installa sur le siège passager.
« Elle flingue, je le garde en souvenir !»
annonça Buddy Lee en s'asseyant au volant. Il démarra, écrasa la pédale d'accélérateur et franchit le portail à tombeau ouvert. En quittant le quartier résidentiel, il manqua renverser le gardien qui s'était aventuré hors de sa guérite.